France Culture.
Question du soir. Quentin l'a fait.
S'il faut comprendre ce qu'est la guerre, il faut également comprendre ce qu'elle n'est pas. C'est le projet de Christophe Darmanjat qui, dans son ouvrage intitulé « Casus Belli, la guerre avant l'État », se propose d'établir une grammaire des confrontations collectives qui sont en réalité bien plus diverses que la guerre telle qu'on la connaît. Alors, ces nombreuses variations existaient dans les sociétés pré-étatiques, mais ont presque toutes disparu avec la formation des États qui ont défini leur propre monopole de la violence légitime. Dans ce cas, la guerre telle qu'on la connaît est-elle née avec l'État ou bien avant ? Bonsoir Christophe Darmanjat.
Bonsoir.
Merci d'être présent ce soir à Question du Soir. Vous êtes anthropologue social, maître de conférences, habilité à diriger des recherches à l'université Paris-Cité et l'auteur, je le disais, de cet ouvrage qui apparaît aux éditions de La Découverte et intitulé « Casus Belli, la guerre avant l'État ». Mais je voudrais vous prendre au mot avant de commencer notre entretien, Christophe Darmanjat, avant de faire et de l'histoire et de l'anthropologie et tenter de comprendre ce que la guerre est et ce qu'elle n'est pas, au moins dans l'actualité douteuse que nous traversons. La guerre des drones, pour commencer, cette guerre des drones qui s'illustre notamment en Ukraine, en Russie, est une guerre où, peu à peu, malgré le champ de bataille qui se poursuit, peu à peu, les corps s'éloignent. Or, c'est longtemps ce qui a caractérisé la guerre, cette confrontation des corps. Comment vous abordez cette guerre des drones ?
Alors moi, je suis pas du tout un spécialiste de la guerre moderne, et même de la guerre tout court. Il y a des tas de gens qui se sont penchés sur toutes les différences qui peuvent exister au sein des différents types de guerres, dans les sociétés historiques. Par contre, je suis pas convaincu que le fait de se servir de drone change fondamentalement la nature des choses. Après tout, ça fait quand même quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'années que les gens peuvent s'affronter avec des projectiles, y compris que dans certaines sociétés, c'était considéré comme une arme de lâche, parce que les vrais hommes, ça se bat au corps à corps. Mais on a des éléments ethnologiques et archéologiques qui laissent penser qu'il y a déjà fort longtemps que les gens essayent d'infliger des dommages sans en subir eux-mêmes. Et donc, je ne suis pas convaincu que le drone est une amélioration, mais ça n'est pas une innovation.
Voilà. Autre expression qui traverse l'actualité, la guerre dite hybride. Alors c'est un terme controversé, compliqué, mais en somme, c'est cette guerre menée par la Russie en Europe qui mène à un ensemble d'opérations de déstabilisation, de désinformation, d'actions non conventionnelles. Ce terme de guerre, il est bon selon vous ? Il est pertinent ?
La guerre, c'est une situation générale, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, au sein de laquelle il y a des opérations militaires, mais par définition, c'est un état d'hostilité, c'est beaucoup plus vaste que ça. Dans toutes les guerres, il y a de la propagande, il y a de la propagande interne, il y a de la propagande externe, etc. De ce point de vue-là, pareil, je suis pas convaincu qu'on vive quelque chose de fondamentalement nouveau, même si, évidemment, les moyens employés, eux, peuvent l'être.
Et enfin, dernière expression, celle de guerre entre Israël et le Hamas. Certains du moins, disent qu'il ne s'agit pas d'une guerre nécessairement au vu du déséquilibre des rapports de force. Israël a une armée complète, équipée, financée, ce qui n'est pas le cas nécessairement des habitants de Gaza.
Oui, alors évidemment, ça rappelle presque, d'une manière un peu tragicomique, je m'excuse de la qualité de cet humour, mais enfin le mot de Desproges qui disait « sans l'ennemi, la guerre est ridicule ». Là, c'est sûr qu'il y a un déséquilibre. Après, ce qui est certain, au moins me semble-t-il, encore une fois, je suis pas un spécialiste de ces questions d'actualité, c'est que, au moins du point de vue de l'État israélien, il y a une guerre, au sens où on déploie des moyens militaires, entre autres, afin d'atteindre certains objectifs et de remporter une victoire. Et pour moi, c'est ça la définition fondamentale de la guerre.
Et on réagit à l'attentat meurtrier du 7 octobre commis par le Hamas. Alors venons-en, Christophe Darmanjat, à votre ouvrage Casus Belli, et commençons par le début, si je puis dire, la guerre, comment est-ce que vous la définissez ?
Alors effectivement, se pose le problème de se dire que, ma foi, la guerre est évidemment une confrontation sanglante, homicide, entre des groupes humains, mais que toute confrontation sanglante et homicide entre des groupes humains n'est pas forcément de la guerre. Et ça, ça fait quand même un petit moment que les historiens et encore plus les ethnologues se cognent le museau là-dessus parce qu'ils tombent sur des réalités qui rentrent mal dans nos cases. Alors moi, la guerre, je l'ai définie à la suite d'un collègue qui s'appelle Bruno Boulestin, qui a bossé là-dessus il y a peu. Et finalement, même à la suite de Clausewitz, qui était un théoricien du début du 19e siècle, et qui disait « La guerre est un affrontement dans lequel on cherche à imposer à l'autre notre volonté, à l'imposer par la force. » Et ça me semble une excellente définition.
Eh bien justement, Clausewitz, expliqué par Frédéric Ancel, il était l'invité dès matin de Guillaume Erner le 7 juin dernier.
Pour Clausewitz, la guerre s'inscrit comme un instrument devant permettre à celui qui la mène d'atteindre un objectif. Mais l'objectif, il est systématiquement politique. Autrement dit, il souhaite mettre fin à ce qu'on appelait la petite guerre. Alors, au cours de la Renaissance, de l'époque moderne, mais également du Moyen-Âge en réalité, les petites guerres pour Clausewitz, ce sont des guerres de barons, de comtes, de ducs, parfois même d'ailleurs de rois, mais dont l'objectif n'est pas politique. Alors ça peut être légaux, ça peut être des guerres qu'il méprise, d'ailleurs des guerres de religion, il trouve ça absolument grotesque, et il faut s'inscrire pour lui dans le politique. Alors, c'est sa fameuse phrase qu'on connaît, qu'on retient, à juste titre d'ailleurs, c'est le chapitre premier de son ouvrage, c'est la guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens.
Êtes-vous d'accord, Christophe Darmanjat, avec cette lecture de Frédéric Ancel, lecture de Clausewitz?
Alors, je crois qu'il y a deux éléments là-dedans, c'est-à-dire que moi j'ai repris la définition de Clausewitz de la guerre. Je pense que quand Clausewitz dit « la guerre est politique », c'est beaucoup plus un théorème qu'une définition, pour parler comme les mathématiciens.
C'est-à-dire
C'est une loi sociale qui pose en fait le problème de savoir qu'est-ce qui est politique et qu'est-ce qui l'est pas. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup occupé, ainsi que Bruno Boulestin, dont je parlais à l'instant, parce que très très souvent, on a considéré que on pouvait définir la guerre par les gens qui la faisaient, et en disant la guerre c'est fait par des groupes politiques, et donc en gros par des États. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de dictionnaires font. Et à mon avis, c'est une erreur profonde. Parce que on se retrouve confronté dans des sociétés sans État à des groupes qui veulent vaincre l'adversaire au point parfois même de l'exterminer jusqu'au dernier et dont on a bien du mal à dire qu'ils sont politiques ou pas. Voilà. Et donc je pense que c'est pas la bonne façon de c'est pas le bon bout par lequel prendre le problème.
Alors approchons le bon bout. Je vous cite Christophe Darmanjat. Vous écrivez: s'il nous est aujourd'hui si difficile d'identifier et de comprendre de nombreuses formes de confrontation observées à des époques ou en des lieux lointains, c'est parce que nous vivons dans des sociétés étatisées depuis fort longtemps. Or, l'État, en raison de sa nature même, a considérablement simplifié ou appauvri, selon l'angle sous lequel on se place, le répertoire de l'exercice de la violence. Fin de citation. Et c'est-à-dire qu'en matière de guerre, en matière d'art de la guerre, l'État nous a en partie rendu aveugle.
Alors, on est un peu dans la situation d'un naturaliste, d'un biologiste qui voudrait étudier les espèces vivantes et qui aurait vécu toute sa vie dans une île où il y avait, alors je sais pas, je dis que j'ai une bêtise évidemment, mais que des mammifères, voilà. Alors, le problème, c'est que le jour où il parcourt le vaste monde et où il tombe sur des poissons, des oiseaux, des grenouilles, etc., il a tendance d'abord à être intrigué face à cette chose-là et à dire ensuite, tiens, c'est bizarre, il y a des mammifères volants, des mammifères qui nagent, des mammifères batraciens, etc. Et nous, il nous arrive un peu la même chose avec la guerre. On a tendance à en voir partout, ou à ne la voir que dans les États, mais c'est deux erreurs symétriques, du fait qu'on vit depuis longtemps, dans des sociétés par bien des égards simplifiées, où il y a tout un tas de modes de confrontation entre les groupes qui ont disparu.
Évidemment, la question qu'on a envie de vous poser, c'est de savoir à quoi donc pouvait ressembler cette confrontation, cette violence avant la naissance même des États. Et il y a dans votre livre, Casus Belli, un exemple, mais c'est plus qu'un exemple d'ailleurs, qui m'a passionné, la question de la vengeance, se faire justice par la vengeance. Expliquez-nous en quoi c'est un point très intéressant pour comprendre la forme des guerres avant les États.
Absolument. Alors la vengeance motive en réalité beaucoup, beaucoup de formes différentes de conflits. Nous, on nous juge justement, on vit dans des sociétés étatiques, donc depuis qu'on est tout petit, on nous explique que la justice, ça n'est pas la vengeance, que la vengeance, c'est le contraire de la justice, qu'il ne faut surtout pas se faire justice soi-même, que c'est pas bien, etc., etc., et que même c'est interdit. Dans les sociétés sans État, bah, c'est très exactement le contraire, donc non seulement ça n'est pas interdit de se faire justice soi-même, mais c'est même la condition pour avoir une existence sociale. Celui qui ne se ferait pas justice, ou dont le groupe duquel ne se ferait pas justice, serait vraiment un moins que rien.
Vous écrivez que c'est quasiment un devoir en réalité.
C'est un devoir absolu, c'est une obligation morale. Alors évidemment, il n'y a pas des gendarmes qui viennent vous chercher pour vous obliger à le faire, vu qu'il n'y a pas d'État. Mais en revanche, la pression sociale est telle que, comment dire, c'est une obligation morale au même titre, je ne sais pas, je dis ce qui me passe par la tête, mais que l'hospitalité ou que un certain nombre de choses comme ça. Alors à partir de là, se décline un certain nombre de formes différentes. Donc la vengeance peut donner lieu à d'authentiques guerres. Il y a des guerres de vengeance, où en partie on va y compris jusqu'à annihiler l'adversaire en disant que ça commence à bien faire. Voilà, ces gens-là, il faut qu'ils disparaissent de la surface de la Terre. Puis il y a des formes plus... J'allais dire plus polissé, évidemment, c'est pas le bon mot, mais enfin plus régulé, on va dire, d'exercice de la vengeance.
La préhistorienne directrice de recherche au CNRS, Marie-Hélène Patoumati.
Les faits archéologiques ne disent pas ça. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas que, contrairement à l'imaginaire, que l'homme préhistorique est violent. Parce que les traces de violence sont relativement rares. C'est vrai qu'il y a la démographie qui joue. C'est vrai que là, on a pas quand même des millions de sujets à étudier, ça c'est clair. Mais il n'empêche qu'on n'a pas vraiment de traces de violence, disons, à part interpersonnelle, à part peut-être liée au cannibalisme, liée à des rituels. Donc ça, c'est très ancien, à peu près on a quelque chose vers à peu près 800 000 ans. Mais sinon, c'est pas vraiment des massacres. C'est-à-dire qu'on a l'apparition de massacres à part un seul exemple, qui est vraiment lié à un changement de structure de la société préhistorique, changement à la fois économique et sociétal. Et là, c'est bien marqué. C'est-à-dire qu'en fin de compte, non. Peut-être que les chasseurs-cueilleurs, à l'origine, n'étaient pas violents.
Vous n'êtes pas d'accord, Christophe Darmanjat, avec Marie-Hélène Patoumati. Expliquez-nous.
Alors, en effet, c'est un débat qui n'a pas commencé la semaine dernière. Il y a deux grandes positions parmi les préhistoriens ou les anthropologues. Celle, donc, défendue par ma collègue, consistant à penser que les conflits collectifs, et en particulier les guerres, c'est quelque chose d'assez récent, finalement, dans l'histoire des sociétés humaines, et qui serait apparu... On va dire avec l'agriculture ou avec certaines de ses conséquences. Et puis, des gens qui pensent qu'il y a des indices pour qui laissent penser que c'est quelque chose de bien, bien plus ancien. Alors, là où je suis évidemment d'accord avec elle...
C'est faucons contre les colombes,
c'est
en fait.
Hein. Alors voilà, pour parler
et
comme
donc,
les auteurs...
Et donc, Marie-Hélène Patoumati serait une faucon.
Non, c'est une colombe.
C'est une colombe, alors voilà, pardon.
C'est moi qui suis un faucon.
Vous êtes un faucon, vous.
Voilà. En un seul mot, bien sûr. Alors, comment dire, tout le monde est bien d'accord que plus on remonte vers le passé, moins il y a de traces archéologiques de conflits collectifs. Ça, c'est une évidence. Toute la question, et elle n'est pas facile, c'est est-ce qu'on a moins de traces parce qu'il se passait moins de choses, et donc parce qu'effectivement, plus on remonte vers le passé, moins les groupes humains se tapaient dessus, ou est-ce qu'on a moins de traces parce qu'il y a objectivement des raisons que les conflits aient laissé moins de traces. Et évidemment, ce n'est pas une question facile. Moi, il me semble qu'un élément décisif est fourni par l'ethnologie. J'avais passé plusieurs années à étudier les conflits, en particulier chez les aborigènes australiens, qui sont un observatoire extraordinaire de chasseurs-cueilleurs. Et ces gens-là, qui sont des chasseurs-cueilleurs, j'allais dire pur sucre, ont tout un tas de pratiques, bellicistes. Alors, certaines relevant de la guerre, certaines relevant d'autres catégories. Mais en tous les cas, ces gens-là ont des armes de combat, se tuent et parfois s'exterminent. Et quand je dis parfois, on a plusieurs dizaines de témoignages. Et je ne vois pas comment on pourrait exclure, qu'il en ait été de même dans le passé. Voilà, c'est ça fondamentalement mon argument. Après, évidemment, c'est la science et la préhistoire, c'est quelque chose de difficile parce que, évidemment, on n'aura jamais la réponse à coup sûr.
Et on ne départagera pas ce soir et ici les colombes et les faucons. Mais tout de même, pourquoi l'État est-il venu interdire in fine et à travers même sa naissance et son existence cette forme particulière de violence qu'est la justice par la vengeance?
Alors, dans les sociétés sans État, les gens se font donc justice eux-mêmes. Ils peuvent la faire, de manière unilatérale. Donc c'est typiquement, par exemple, le cas des guerres de vengeance ou de la vendetta. La Vendée, dans la Vendetta, on cherche à équilibrer le nombre des morts. Dans la guerre de vengeance, on cherche à donner une bonne leçon à l'adversaire. Il y a d'autres formes, par exemple les duels judiciaires, où des gens disent, bah voilà, on a un compte à régler, on a un problème, on se donne rendez-vous, on décide à l'avance quelles armes on a le droit d'utiliser, quelles règles on va utiliser là, et surtout comment on termine. Voilà, donc il y a tout un tas de formes comme ça. L'État, par définition, alors ça c'est pareil, hein, c'est pas nouveau, Max Weber l'avait déjà très bien dit, et d'autres, il a le monopole de la violence. C'est la définition même de l'État, c'est de dire à partir de maintenant, c'est moi qui ai le droit de décider quand est-ce qu'on va utiliser la violence, soit en interne, pour régler des comptes, des querelles ou des oppositions internes, soit en externe, et en gros, c'est la guerre. Et donc, à partir
C'est plus que la guerre, pardonnez-moi, c'est surtout, et vous l'écrivez, hein, c'est pour ça que je me permets de vous couper, c'est surtout la capacité à mobiliser, à dire aux citoyens, bah là, je vous contrains à aller faire la guerre, alors, à devenir violent.
Alors, ça, je pense que ça marche dans un sens peut-être moins bien dans l'autre, c'est-à-dire là où il y a effectivement contrainte juridique pour dire si vous n'allez pas à la guerre alors qu'on l'a décidé, il va vous arriver des ennuis, là vous êtes sûr d'être devant un État. Je ne suis pas sûr en sens inverse que tous les États aient forcément obligé tout le monde ou en tous les cas des gens à aller se battre. En tous les cas, dans les sociétés sans État, les gens vont se battre parce qu'ils en ont envie. Ils en ont envie. Alors après, c'est pareil, hein, y a des affaires de pression sociale où vous êtes, quand vous êtes le dernier des derniers, si vous y allez pas, vous y allez quand même. Hein, voilà. Au besoin, en essayant de rester un peu à l'arrière, mais bon, voilà, il y a des tas d'anecdotes là-dessus. Alors pour en revenir à l'État, bah oui, l'État, il va essayer... Il va s'efforcer d'interdire les vengeances privées, donc que ce soit les duels. Alors on le sait nous, par exemple, bah voilà, Richelieu, tout notre Moyen Âge et toute notre Renaissance, c'est l'État qui essaye d'interdire les duels, mais les duels individuels. Et il y a des tas de sociétés où il y avait des duels judiciaires collectifs. Bah ça, l'État, il dit à partir de maintenant, vous arrêtez, c'est moi qui rend la justice. L'État interdit aussi les opérations, on va dire, de razzia, de chasse, de choses comme ça, qui était très banal dans les sociétés sans État. Et ben voilà, le principe même de l'État, c'est d'essayer que les gens n'aient pas la libre disposition de leur violence en dehors de lui. Et à la fin du bouquin, je donne d'ailleurs quelques rappels historiques sur les difficultés qu'a eu l'État à se construire, évidemment, avec des fois des scènes un peu tragicomiques comme ça. Voilà.
Vous avez divulgué Casus Belli. Est-ce que la guerre, parce que vous tracez aussi dans ce livre quelques invariants de très très long terme, la guerre est-elle au fond une activité exclusivement masculine ?
Alors la guerre est une activité très 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 majoritairement masculine. Les armées se féminisent un tout petit peu dans les temps modernes. C'est lié évidemment à des transformations sociales, c'est lié aussi à des transformations technologiques, comme vous le disiez au début, pas seulement avec les drones, mais aussi avec le fait que l'armement repose de moins en moins sur la force physique et de plus en plus sur un certain nombre de technologies. Mais il y a ce qu'on appelle dans les sociétés humaines la division sexuée du travail ou sexuelle du travail, qui a de fait réservé aux hommes le monopole ou le quasi-monopole, alors à la fois de la chasse au gros gibier, des armes, de la politique, des relations extérieures. Et ça, ça a marqué effectivement non seulement la guerre, mais l'ensemble des combats, même si, évidemment, il y a des exceptions partielles à cette règle, qui sont d'ailleurs fort intéressantes, mais voilà, ça reste des exceptions partielles.
Est-on capable de dire aujourd'hui, avec le recul de la très très longue histoire, si l'État, si les États ont apporté plus de conflictualité au monde ou plus de paix? Vous dites qu'il y a dans ce domaine de recherche là aussi une forme d'ambivalence.
Oui, alors moi je suis, en tous les cas moi je suis pas capable de répondre à cette question qui posée à un niveau aussi général me semble extrêmement compliqué. D'abord évaluer le niveau général de conflictualité dans des sociétés étatiques c'est quand même très compliqué parce que selon les périodes et selon les pays il se passe quand même pas du tout les mêmes choses. Et alors vous doutez bien que concernant les sociétés étatique, on est loin d'avoir des statistiques complètes et satisfaisantes.
Tout à fait robustes.
En tous les cas, ce dont on est sûr, c'est que ça a changé considérablement les données du problème, la manière dont la violence s'exerce. Auparavant, tout homme adulte était armé à peu près en permanence dans une société sans État, c'est comme ça, et redoute quand même, alors ça ne veut pas dire qu'on se trucidait tous les jours, mais enfin, vous avez toujours la menace, justement, d'une vengeance, d'un raid, d'une opération, etc., etc., qui vous plane au-dessus au-dessus de la tête. Avec l'État, ça s'est quand même plutôt amélioré. Mm-hmm. En revanche, effectivement, le jour où l'État décide de mobiliser sa violence, soit vers l'extérieur en vous obligeant à y aller, soit même vers l'intérieur parce qu'il y a de la contestation sociale et qu'il la réprime, évidemment, c'est pas beaucoup plus amusant.
Passons maintenant à la classification, là aussi, passionnante que vous faites des conflits, des guerres. Pour commencer, la première catégorie, ce sont les guerres, les conflits dits conventionnaires, des conflits qui qualifient une confrontation dont les modalités, écrivez-vous, ont fait l'objet d'un accord préalable entre les deux parties. Au fond, les deux parties se mettent d'accord pour faire la guerre.
Alors, ils se mettent d'accord, mais justement pas pour faire la guerre. Et à mon avis, c'est un tort qu'on a eu. Alors, les anthropologues étaient bien embêtés quand ils voyaient ce genre de choses. Ils disaient évidemment c'est de la guerre, parce qu'ils étaient des anthropologues sortant d'une société où quand il y a des groupes qui se tapent dessus pour se tuer, c'est de la guerre. Mais ils se croyaient obligés toujours d'ajouter un adjectif, parce qu'ils voyaient bien que ça collait pas. Et l'adjectif favori, ça a été rituel ou ritualisé, qui est à mon avis un adjectif qui n'explique rien et qui donne l'impression qu'on a une réponse, alors qu'en fait on ne l'a pas. Donc moi je pense qu'il faut arrêter d'appeler ça des guerres. Ce sont des duels, et la plupart du temps des duels judiciaires. Alors des duels collectifs, il y en a... de mille variétés, on peut se taper dessus tous ensemble les uns après les autres, par champions interposés, avec des degrés de violence extrêmement variables. Mais le point commun de tout ça, c'est qu'on sait par avance comment ça va se terminer. Et ça, par définition, alors quand je dis comment ça va se terminer, ça ne veut pas forcément dire qui est le vainqueur, mais à quelles conditions ça se termine. Est-ce qu'on termine au premier mort? Est-ce qu'on termine au coucher du soleil? Et après, on n'y revient pas. Et ça, évidemment, ça change fondamentalement les choses par rapport à des conflits unilatéraux. Alors moi, j'appelle ça discrétionnaire parce que il fallait que je trouve un mot pas trop ambigu et que unilatéral, ça marchait pas.
Les parties sont libres de prolonger la confrontation ou de la réitérer si elles ne sont pas satisfaites de son issue.
Ben voilà, exactement comme dans la guerre. Et alors là, pour le coup, l'exemple de la Russie contre l'Ukraine, on sait quand ça commence, personne ne sait quand est-ce que ça va finir, et le but c'est d'arriver à épuiser ou à décourager l'adversaire. Alors que dans les confrontations conventionnelles, donc des formes de duel, là, tout le monde sait parfaitement à l'avance quand est-ce que ça va se terminer. Et donc, c'est à mon avis des catégories totalement différentes.
Autre catégorie, autre point d'entrée, les guerres dites résolutives, dans le sens où elles ont pour objectif de résoudre un différend et de parvenir à des rapports plus apaisés. En quoi c'est un point d'entrée intéressant pour comprendre les conflits?
Mon idée est qu'on peut faire une classification à quatre cases, donc en croisant deux questions.
Une matrice.
Première question, donc, comme on le disait, est-ce qu'on s'est mis d'accord à l'avance ou pas sur la manière dont ça finirait? Et deuxième question, est-ce qu'on se bat parce qu'on a un différent et que le combat est là pour vider ce différent? Alors, évidemment, c'est le cas de la guerre. Puisque par définition on se bat parce qu'on n'est pas d'accord et qu'on veut chercher à imposer à l'autre sa volonté. C'est le cas du duel judiciaire, on n'est pas d'accord, on s'est mis d'accord pour se taper dessus selon certaines règles, etc. Mais c'est pas toujours le cas, et par exemple, quand on fait l'équivalent de la chasse, alors là on va pas chasser des lapins, on va chasser soit les biens, soit des humains, soit voire même des têtes, dans un certain nombre de cas, en tous les cas on va faire une opération ponctuelle, qui n'est pas faite pour se rabibocher avec l'adversaire, qui est simplement faite pour prélever quelque chose chez lui, et ça n'a pas pour but de ramener la paix, et donc ce ne sont pas des guerres, c'est encore autre chose.
Êtes-vous un homme optimiste, Christophe Darmangin?
Alors, j'imagine que la question concerne l'avenir des guerres dans l'humanité.
Oui, je vous cite, dans l'immédiat, écrivez-vous, l'évolution politique globale ne s'engage guère dans cette direction, celle de la pacification, et l'heure est bien davantage au fractionnement et aux tensions qu'à la marche vers l'unification.
Oui, alors ça, il n'y a pas besoin de sortir ni de Saint-Cyr, ni de l'université Paris-Cité pour constater que l'ambiance est au mauvais temps. Donc, évidemment qu'à court terme, je ne suis pas très optimiste, comme à peu près la plupart de mes contemporains. Moi, ce qui fait que je le suis bien davantage sur le long terme, c'est que, et là c'est un problème sur lequel je pense que ça vaut le coup d'insister, ce n'est pas parce que la guerre vient, comme je le crois, de très loin qu'elle est inéluctable. Et souvent, on assimile ça en se disant, ah bah, si c'était quelque chose de très ancien, bah, on ne pourra jamais s'en débarrasser. Je pense que c'est une idée fausse. Il y a des choses très anciennes dont on peut se débarrasser à un moment donné, et des choses récentes dont c'est beaucoup plus difficile
de se
débarrasser.
Vous voulez dire qu'un monde sans guerre, c'est une option possible ?
Il me semble que c'est une option possible. Et d'ailleurs, quand je veux plaisanter, je dis toujours, imaginons deux types du néolithique qui discutent, et l'un dit à l'autre, moi je pense qu'un jour on arrêtera de chasser des têtes, alors vous pouvez remplacer par on arrêtera de faire la vendetta ou des choses comme ça, et l'autre lui dit, bah oui, mais toi t'es un idéaliste, on l'a toujours fait, c'est dans la nature humaine. Bon, bah on sait très bien que non, la chasse aux têtes et la vendetta, il n'y en a plus, voilà. Et je pense que les sociétés humaines, bah justement, elles ont considérablement évolué depuis qu'elles existent, depuis leur origine. Elles ont construit des espaces de plus en plus vastes et de plus en plus pacifiés, même si cette pacification est relative. Moi, je vois pas pourquoi l'évolution sociale des humains s'arrêterait là où elle est. Voilà.
Merci beaucoup Christophe Darmanjat. Casus Belli, La guerre avant l'État, c'est l'ouvrage que vous avez fait paraître aux éditions de La Découverte. Merci d'être venu ce soir à Question du Soir. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Audrey Carme, Bruno Barada, Rodi Eken à la réalisation ce soir. Comme chaque soir, François Richet.